Les colloques du Collège de France.
Nous allons entamer la dernière partie de ce magnifique colloque avec les deux derniers intervenants. Le premier des deux étant Frédéric Perraudeau, jeune professeur, auquel on doit une monographie indispensable sur l'administration thébaine à la troisième période intermédiaire, un sujet particulièrement difficile qui lui a donné l'occasion de brasser une documentation privée particulièrement importante. Et grâce à cela, il peut nourrir le propos dont il va nous parler aujourd'hui, le service du Dieu, le service du roi à la troisième période intermédiaire. À toi la parole.
Merci Olivier. Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord commencer par remercier Laurent Coulon pour m'avoir invité et toute l'équipe du Collège de France pour l'accueil et l'organisation de ce colloque qui est réglé au millimètre comme d'habitude. Alors, cet après-midi, je voudrais vous présenter le point de vue de la troisième période intermédiaire sur cette question du rapport entre le monde divin et le monde terrestre. C'est une époque troublée de plus de 400 ans qui marque beaucoup de changements d'organisation du pouvoir, notamment de division, puisque ça commence avec une 21e dynastie qui est marquée par une séparation dans l'État, plutôt qu'une vraie division, puisqu'on sait bien que les deux entités ont des liens. Dans le sud, on a des grands prêtres d'Amon, et dans le nord, des rois qui sont installés à Tanis. Cette apparente division, effectivement, pose déjà la question de où est la cour, même si on sait bien qu'elle était souvent itinérante. On l'a dit ce matin, peut-être qu'à la fin du Nouvel Empire, elle était un petit peu moins, entre Pi Ramsès et Memphis. Avec l'installation d'une nouvelle capitale à Tanis, évidemment, on a l'impression qu'il y a une sorte de fixation de la cour à cet endroit-là, comme elle sera plus tard installée à Bubastis pendant la 22e dynastie, et même si ça n'empêche pas le roi de séjourner occasionnellement à Memphis, qui reste la capitale administrative centrale, venir à Thèbes quand il le peut, puisqu'évidemment, le sud n'est pas toujours sous le contrôle des rois du nord. C'est bien le problème. Alors, cette 21e dynastie est souvent appelée la dynastie des rois-prêtres, ou des prêtres-rois. On peut dire les deux, en fait, en réalité, ça marche très bien. Même si l'appellation peut paraître un peu surannée de nos jours. On a la mise en place d'un État théocratique. L'idée, c'est que désormais, c'est Amon qui est le roi. Et il y a d'abord ce texte, effectivement, qui a été étudié notamment par Meyer il y a très longtemps, puis ensuite, plus récemment, notamment par Vernus et puis par Janssen Hinkel, qui est ce qu'on a appelé le credo de la théocratie, où on voit très bien cet aspect royal qui est transféré à Amon. Amon était déjà le roi des dieux, c'est évident. Mais avec cette fin de 20e dynastie et ce transfert vers une 21e dynastie très profondément différente, on voit apparaître dans le texte très long, j'ai mis que des extraits, ce transfert à travers des expressions qui correspondent d'habitude à la désignation du roi, à la représentation du roi. Et Amon est présenté comme le roi efficient, par exemple, celui qui fait des décrets, le protecteur parfait. Or, ce sont des fonctions éminemment royales, la protection du pays et le fait d'agir et de faire des lois. Et puis, la titulature royale qui est appliquée à Amon avec le titre de roi de Haute et de Basse-Égypte et le cartouche, même si on est dans un texte en hiératique à l'origine, évidemment, on a quand même ce cartouche qu'on connaît aussi dans la documentation en hiéroglyphe. Donc, ce transfert de la royauté vers Amon a un corollaire qu'avait déjà signalé Vernus, c'est que si Amon est le roi, que devient le roi ? On a une explication assez vite dans ce parallélisme avec ce qui se passe dans le sud. Dans le sud, on a des grands prêtres, grands prêtres d'Amon, c'est-à-dire des premiers serviteurs d'Amon, Hem, Netcher, Tepi et Nimen, dont le premier est Erior, qui vont effectivement occasionnellement prendre une titulature royale ou des attributs du décorum royal Là, vous avez cette scène du temple de Rontsou, on voit la purification des Riors. Plus loin, il y a une scène de couronnement des Riors qui sont imitées directement, hein, des scènes de couronnement de Ramsès II dans la grande salle hypostyle du temple d'Amon. Et donc la particularité, c'est évidemment que dans ces cartouches, Hérior prend, au lieu d'un nom de couronnement qui contiendrait le nom du dieu Ré, prend le titre de grand prêtre d'Amon comme nom de couronnement. Il est roi parce qu'il est grand prêtre, parce qu'il est le premier serviteur du dieu. Le dieu étant le roi, eh bien son serviteur peut aussi avoir une qualité royale. Et puis, on a le symétrique, ou le chiasme, si on veut plutôt d'ailleurs, dans le nord, avec ici un contrepoids de collier de Psousénès, dont l'inscription a été copiée par Montet. Et on a la titulature du roi Psousénès, qu'on a tenté d'appeler le roi d'abord, avant tout, avec sa titulature standardisée, Horus, Nepti, Horus d'or, etc. Et puis, on voit arriver, entre son nom de couronnement classique, on va dire, hein, à repérer, et son nom de naissance Psousénès, le titre de premier prophète d'Amon intégré dans la titulature royale. Donc, on a bien dans le sud des prêtres rois et dans le nord des rois prêtres. Alors, le lien entre les deux est un lien généalogique. Hein. On sait que Psousénès était un fils du prêtre roi Pinedjem, qui était lui grand prêtre dans le sud. Donc, cette opposition, elle est théorique, on va dire, mais techniquement, il y a des liens assez étroits, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des affrontements dynastiques et des guerres, etc. Alors, plus prosaïquement, comment ça se manifeste de manière terrestre, archéologique? Eh bien, déjà, depuis les années 80, on a pu démontrer, notamment les travaux de Philippe Brissot et de Jean Yoyot, que Tanis était conçu comme une nouvelle Thèbes, hein, avec un transfert divin, de la topographie cultuelle divine, avec ce temple d'Amon dans la partie nord, le temple de Mout et de Rontsou l'Enfant au sud. Il y a un temple de Rontsou aussi, hein, qui est dans l'enceinte d'Amon à Karnak et dans l'enceinte d'Amon à Tanis. Et puis, à l'extrême sud, ce temple d'Aménopée, hein, d'Amon d'Opet, qui est là aussi l'image à Tanis du temple de Louxor. Donc, cette théocratie, c'est une conception évidemment théologique, royale, va trouver une traduction terrestre, je dirais archéologique. La question c'est, est-ce qu'elle se voit aussi de manière plus pragmatique dans l'administration, dans le secteur administratif? Comment ça se manifeste en fait dans la partie basse, un peu quand on s'éloigne un petit peu du cercle royal ou divin? Quel est le lien, le rapport entre le temple et l'administration royale? Puisque le dieu est le roi, que devient cette administration royale? Est-ce qu'elle est aussi l'administration du dieu? Ou est-ce que c'est l'administration du dieu qui devient l'administration royale? Alors, ces liens sont déjà connus. On a évoqué ce matin les onomastica les liens qu'ils transportent, je dirais, jusque très tardivement dans la littérature égyptienne, de liens étroits entre la cour, l'image de la cour divine et du lien entre les fonctions de cour royale et celles de fonctions de cour divine. Et cette statue du vizir Nespa Kashutia au milieu de la 22e dynastie rappelle ces éléments lorsque, justement, elle fait allusion à Thoth, hein, comme le temps le vizir de Ré. Hein. Lorsque le roi a saisi les ornements d'Horus, j'étais à son côté comme Thoth. Et on retrouve dans un deuxième passage, hein, étant paré du symbole de Mahat, j'étais directeur des villes, ce qui veut dire vizir, en fait, hein, il faut comprendre vizir dans cette expression-là, comme Thoth à la cour de Ré. Donc ça, ce sont des choses qu'on a vu qui existent déjà au deuxième millénaire, mais qui sont, on le voit ici, rappelées au premier millénaire. Alors, pendant la 21e dynastie, on va quand même vous remarquer que ces titulatures de fonctionnaires ou de personnages de la cour vont mêler de plus en plus étroitement les fonctions religieuses et les fonctions administratives. Là, vous avez trois inscriptions qui viennent de Tanis, hein, que j'ai empruntées aux archives de Pierre Montet, bon, qui sont publiées par ailleurs, mais je trouve parfois que les dessins de Pierre Montet sont tout aussi jolis dans leur version d'origine. Donc la titulature de la reine Moutnedjmet, hein, sur son sarcophage, bon, qu'elle n'a pas, peut-être pas utilisé, hein, tout cas, ce n'est pas elle qu'on a retrouvée dedans, dans la tombe numéro 3 à Tanis, où elle est appelée le deuxième prophète d'Amon-Ré, roi des dieux, la première grande épouse royale de Sa Majesté, la première supérieure des recluses d'Amon, l'intendante de Mout la Grande, maîtresse Ischérou, le prophète de Mout la Grande, maîtresse Ischérou, le prophète de Ronsou, Nontem et Ferotep, la mère divine de Ronsou, l'enfant, le premier grand élu d'Amon, la fille royale, sœur royale, épouse royale, maîtresse des deux terres. Et là, on voit une alternance, je vous ai mis des couleurs, hein, en rouge, les fonctions qui sont probablement religieuses, hein, et en bleu, les fonctions qu'on pourrait presque appeler administratives ou civiles, même si certaines ont des rapports avec l'administration du temple, hein, comme celui d'intendante de Mout. Ce qui est quand même intéressant, c'est que Moutajmet, c'est la femme de Psousenès. Psousenès, il est premier prophète d'Amon, et sa femme, c'est le deuxième prophète d'Amon. Donc, une sorte de monopole des hautes fonctions, hein, par cette famille, qu'on retrouve dans les deux autres documents, où on a la coupelle du général Wounde Baounjet, qui est un cousin de Psousenès, probablement, et qui, lui aussi, est à la fois prophète de Ronsou, mais intendant de Ronsou, tout en étant chef des archers, commandant des archers de Pharaon. Le fils de Psousenès, Henri Fenmout, hein, Ramsès Henri Fenmout, d'ailleurs, est à la fois général en chef. Ça, c'est assez classique pour un prince héritier, mais derrière, on voit qu'il est grand intendant d'Amon. Et ça, pour le coup, c'est vraiment des choses qu'on ne voit apparaître qu'à la 21e dynastie. Alors, la première manifestation de cette sorte de confusion entre l'administration royale et l'administration divine, c'est le fait que, dans le domaine thébain notamment, eh bien, tous les fonctionnaires, y compris les fonctionnaires, et d'abord avant eux, les fonctionnaires royaux, les fonctionnaires civils royaux, sont tous serviteurs du roi et serviteurs du dieu. Ils sont tous « hemnetcher animenra », c'est-à-dire prophètes d'Amon-Ré. Ils ont tous un titre en lien avec ce clergé d'Amon, qu'il soit donc « hemnetcher » ou qu'il soit « itnetcher », qui est un titre légèrement inférieur, mais qui, comment dire, une sorte de marchepied pour devenir « hemnetcher ». Ils sont plus rarement wab, hein. Ils peuvent être wab aussi, mais les wab ont moins souvent des fonctions administratives supérieures. Alors, donc le serviteur du roi devient automatiquement un serviteur du dieu. Alors évidemment, ça a un aspect économique. Si on décide que tous les fonctionnaires vont être serviteurs du dieu, c'est pour leur donner une part des revenus du domaine du temple. Et c'est une manière pour le pouvoir royal de payer ses fonctionnaires sur le trésor du temple. Alors, c'est ce qui m'a amené justement à regarder un peu plus près ce qui se passe au niveau du trésor, qui est un département central, hein, dans l'administration égyptienne. On a des représentations, hein, au Nouvel Empire, comme dans cette tombe de Neferenpet, des activités des trésoriers ou des scribes du trésor, qu'ils soient des scribes du trésor d'Amon d'ailleurs, ou des scribes du trésor tout court, hein, du trésor du maître des deux terres. Mais au Nouvel Empire, même si beaucoup de hauts fonctionnaires ont des fonctions à la fois au temple et à la fois au service du roi, notamment à partir du règne de Thoutmôsis III, eh bien, il y a quand même une distinction entre les deux hiérarchies, hein. Ce qui n'est plus vraiment le cas par la suite, hein. Alors, à la fin du Nouvel Empire, on commence à avoir, effectivement, à partir de l'époque Ramesside, on commence à avoir des titulatures un peu ambiguës. Par exemple, Neferenpet, hein, à l'époque de Ramsès II, qui est scribe royal du trésor du maître des deux terres dans le domaine d'Amon. Alors, donc il y a un trésor du roi, hein, dans le domaine d'Amon. A priori, ici, on a quand même deux éléments qui sont distingués, le roi d'un côté et Amon de l'autre. Et il ne peut pas y avoir de fusion, sinon il y aurait redondance dans le titre. Évidemment, il peut s'agir d'une trésorerie du roi dans un des temples funéraires, mais en général, c'est plutôt précisé. Quand on a des trésoriers qui sont trésoriers du Ramesséum, par exemple, eh bien, c'est marqué du temple funéraire, etc., du temple de millions d'années. Là, ce n'est pas le cas. Donc, ça commence à entretenir une ambiguïté. Alors, à la 21e dynastie, ce double message est particulièrement bien visible. On a un certain nombre de scribes du trésor qui s'intitulent ainsi. Hein, je vous ai pris l'exemple de Panebenkebitnart, connu par un papyrus dit mythologique, hein, étudié par Nevinsky et aussi déjà par Piankov et Rambova. On a ce titre, hein, de scribe du trésor du maître des deux terres du domaine d'Amon. Et là aussi, on peut se demander ce que ça veut dire exactement, parce qu'on est à la 21e dynastie. Il n'y a plus de grand domaine royal, normalement, domaine funéraire royal à Thèbes à ce moment-là. Techniquement, où travaillait ce personnage, hein, c'est une question qui peut évidemment se poser. Alors, Athanis, faut bien dire qu'on n'a pas grand-chose. Hein. Les recherches actuelles, hein, sur les tombes privées ont donné quelques résultats. C'est encore vers cette statue qui a été repérée depuis longtemps. Elle est déjà dans le catalogue général de Borchardt, hein, la CG 626 de Zaoupera Mbaïmen, qui nous donne quelques informations sur ce trésor. D'abord, le personnage se place bien dans une situation de serviteur du roi, puisqu'il a fait graver les cartouches du roi Psousanès sur les épaules de sa statue employée, hein, il faut le rappeler. On a ces deux titres qui ne sont pas complètement symétriques, mais font un léger écho. Hein, c'est-à-dire que le premier de ces titres ici évoqués est celui de directeur du trésor du maître des deux terres. Et de l'autre côté, on a son autre titre de directeur des châteaux de l'or d'Amont, Mout et Ronsou. Évidemment, donc l'un se déroule dans le domaine royal, on va dire, c'est un rang, on va dire, ministériel, hein, de chef des ressources économiques du pays au niveau des denrées précieuses, hein, les métaux précieux, bien entendu, mais aussi le bois, les choses comme ça, qui font partie du trésor de Médée de Terre. Et puis, à l'autre côté, ce titre de directeur du château de l'or, il y a un lien évidemment technique. Le château de l'or, c'est l'endroit où on fabrique normalement les statues divines, où on va les consacrer, etc. On a des représentations des travaux aussi qui sont liés à ça, au Nouvel Empire. Et la fabrication des statues divines, bon, dépend bien sûr de l'approvisionnement en métaux précieux, qui lui vient probablement du trésor. Mais normalement, on pourrait penser que ça vient du trésor d'Amon, pas du trésor du maître des deux terres. Allez. Donc on peut se poser la question, là, effectivement, du lien qu'entretiennent ces institutions. Alors la 22e dynastie, double message, si j'ose dire, continue d'être aussi ambigu. Sur la statue de Nespanecher Njera, donc qui est au musée du Caire, une statue de la Cachette de Karnak, eh bien, le personnage est appelé dans la scène supérieure de la face de sa statue, directeur des choses scellées, hein, chef du bat. Et puis, dans la partie basse, il est appelé directeur du trésor de Pharaon, et plus loin, intendant, directeur des greniers du domaine d'Amon. Alors, on a envie de séparer les titres. Effectivement, c'est-à-dire de considérer d'un côté qu'il est intendant et directeur des greniers du domaine d'Amon, et là on est dans le domaine d'Amon, directeur du trésor de Pharaon, c'est un autre titre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit apparaître ce titre de directeur des choses scellées, qui était vraiment très en usage, vraiment très très utilisé au Moyen-Empire notamment, mais qui au Nouvel Empire a commencé à subir une désaffection. Et puis on le voit réapparaître à cette époque-là. Et j'avais pensé à une époque, je le pense toujours d'ailleurs, que ce titre de directeur des choses scellées est une autre manière de dire Mère Peredge. À ce moment-là, il n'y a pas de différence entre les deux. Et d'ailleurs, un des éléments, c'est que en fait, les deux titres ne se trouvent jamais dans la même séquence de titres. Hein, on n'a jamais un personnage qui est directeur des choses scellées, directeur du trésor. On a des personnages qui sont d'un côté de leur statut directeur du trésor, de l'autre côté directeur des choses scellées, hein, ou sur des documents différents. Mais on le trouve jamais dans la même série, comme si c'était une redondance et comme si ça désignait en fait la même chose, tout simplement. Ce qui, historiquement, est le cas, en fait, ça désigne la même fonction. Donc cette fonction a l'air plutôt d'être une fonction dans le domaine royal, même si notre personnage il a des fonctions apparemment aussi dans le domaine d'Amon. Alors, un peu plus tard, au milieu de la 22e dynastie, sous le règne du roi thébain Arsiésis, on a ce personnage qui s'appelle Youfa, qui était gouverneur de Thèbes, donc Roudjar et Sefenyout, hein, mais qui, en plus de ça, est substitut du trésor de Pharaon. Pourtant, sur plusieurs documents, il est aussi appelé, y compris sur la même statue, hein, d'un côté il est substitut ou délégué, hein, si on veut, il dénoue du trésor de Pharaon, et sur l'autre face de la statue, il est appelé délégué du trésor d'Amon, d'Amon-Ré, roi des dieux peut-être. Sur d'autres documents, des documents notamment funéraires, il est appelé aussi, il dénoue du trésor d'Amon. Donc, est-ce qu'il s'agit de deux titres différents, parce qu'il a exercé dans deux administrations différentes, ou est-ce qu'il s'agit du même titre, parce que le trésor du domaine d'Amon et le trésor de Pharaon sont devenus la même chose? C'est une question là aussi qu'on peut se poser. Elle se pose d'autant plus à partir du milieu de la 22e dynastie. Parce qu'au milieu de la 22e dynastie, à Thèbes, on voit réapparaître des rois, des rois de plein titre, si j'ose dire, avec Arciésis, justement. Et ce personnage, il a les cartouches du roi Arciésis sur une de ses statues, pas sur celle-ci, mais sur l'autre statue dont il est le propriétaire. Eh bien, on a les cartouches d'Arciésis. Donc, il y a un roi à Thèbes, ce qui pourrait supposer qu'il y a un trésor du maître des deux terres à Thèbes. Un trésor, entre guillemets, central, décentralisé. Et puis, le titre donc, de directeur, lui, si on prend le rang au-dessus de Idénou, hein, de directeur du trésor, va passer dans une famille, la famille des Djetronsouyouéfor ou des Nartefmout. Hein, ils sont tout aussi nombreux dans cette famille, donc c'est difficile de choisir pour cette appellation. Pour un grand nombre de générations, hein, on a cette famille qui sont à la fois des serviteurs du roi et des serviteurs du dieu, dans les deux cas, de manière assez étroite. Hein, le plus ancien d'entre eux est le quatrième prophète d'Amon, Djetronsouyéfor A, qui épouse une dame Nézikronsoupakéret, qui est la fille du grand prêtre d'Amon. Et puis ils ont un enfant qui s'appelle le quatrième prophète d'Amon, Nartefmout, qui a beaucoup de statues. Oh. Et encore, j'ai pas tout mis. Qui a un enfant qui s'appelle Orsaïzet. Ça tombe bien, Nartefmout a vécu sous le roi Orsaïzet. Il appelle son fils Orsaïzet. On est quand même très proche de la cour. Et là, on a des noms qu'on pourrait appeler loyalistes. Et Orsaïzet C hérite des fonctions de son père. Lui-même épouse une Zétourette, qui est la fille du roi Orsaïzet. Hein. Et leur enfant, le quatrième prophète d'Amon, Djetronsouyéfor C, qui a lui au moins trois statues aussi, va épouser la fille du roi Takelot II. Donc on a des gens qui sont extrêmement proches de la famille royale. Quand on les voit comme ça, on a un peu l'impression d'avoir la famille de Yuya et Tuya en parallèle avec la famille royale. Hein, sauf que ce ne sont pas eux qui fournissent des reines, c'est plutôt la famille royale qui leur fournit des épouses. Alors, le lien étroit que ces gens entretiennent avec le pouvoir royal, la famille royale et la cour, est aussi montré hein, sur leur statut. Si on prend celle-ci, 42208, hein, on a la gravure hein, du nom royal sur la statue, non pas uniquement sur les épaules, comme on le trouve assez souvent à cette époque-là, mais là sur le bandeau qui orne le vêtement de prêtre de ce quatrième prophète d'Amon. Et alors étonnamment, on a deux noms royaux d'ailleurs. On a le nom royal de Sorkon II sur la bande, et puis dans le texte de la stèle, hein, parce que c'est une stèle fort, eh bien, on a donné par la faveur du roi Orsaïzet. Donc on a une reconnaissance des deux rois en même temps, hein, ce qui est assez particulier. Alors sur la statue d'Orsaïzet lui-même, Orsaïzet le fils, hein, le quatrième prophète d'Amon, eh bien le fait qu'il ait épousé la fille du roi Orsaïzet est mis en valeur dans la dédicace qui est faite par son fils, parce que son fils dit qu'il est le fils du quatrième prophète d'Amon Orsaïzet et qu'il est né de la dame Isetouret, et vous avez son c'est le bouton du milieu, non, pas de chance à ça. Vous avez le nom de la dame ici. Fille royale du maître des deux terres, et hop, on a mis le cartouche en plein milieu, là, bien en évidence. On n'aurait pas eu l'inscription, on aurait pu penser que ce personnage avait vécu sous le règne d'Orsaïzet et qu'il avait été son fonctionnaire. Ce qui n'est pas le cas, en fait, il appartient à la génération après. Mais on a bien en évidence le nom du roi ici, d'une autre manière. Mais c'est une manière de le mettre tout de même. Alors, si on regarde les statues de Nartefmout lui-même, on voit aussi cette juxtaposition des titres liés au domaine d'Amon, hein, donc quatrième prophète d'Amon, et directeur du trésor du domaine d'Amon. Donc là, on a une fonction religieuse, un rang dans la hiérarchie religieuse qui est vraiment très important, parce que le quatrième prophète d'Amon, c'est vraiment le quatrième personnage le plus important dans la hiérarchie sacerdotale, et en même temps, une fonction administrative donc dans la direction du trésor. Et ce lien, il va se préserver tout autant que la famille aura le poste de quatrième prophète d'Amon, hein, on a l'impression en tout cas. Et à côté de ça, on a des titres auliques, hein, des titres de cour, comme porte éventail flabellifère à la droite du roi, courtisan ou ami unique, qui marque son appartenance à la cour, royale a priori. Hein, je ne pense pas que les flabellifères à la droite du roi, ils soient flabellifères à la droite du dieu. Non. Et puis, sur l'autre statue, hein, sur une autre de ces statues, on retrouve la même chose, hein, avec les mêmes titres. Hein, de toute façon, ces deux statues sont deux statues qu'il a usurpées du Moyen-Empire, et qu'il a usurpées, récupérées, si vous voulez, du Moyen-Empire. Et effectivement, on retrouve exactement la même répartition des titres, avec ces éléments-là, qui sont liés plutôt au temple, hein, et les autres qui sont liés plutôt au palais, hein, avec cette épithète de Yeux du Roi. Alors, Yeux du Roi dans Karnak, c'est un peu la jonction entre ces deux fonctions, si j'ose dire, mais celui, le grand de course, hein, dans le palais. Et là, on peut avoir un doute quand même, parce qu'on vient de parler de Karnak, et d'un seul coup, on voit cet Epsa arriver, qui veut dire le palais. Est-ce que ce palais, c'est Karnak? Et est-ce que c'est le palais du dieu ou le palais du roi? Je dirais que l'ambiguïté que nous, on peut avoir, on a envie d'avoir une réponse. Je pense qu'on ne l'aura pas toujours, loin de là. Et cette ambiguïté, elle est voulue, en fait. Hein. Sur la statue de Karnak T35 du même personnage, eh bien, on trouve son titre de quatrième prophète d'Amon, et de deuxième prophète de Ronsu, et de prêtre Sem de Sokar dans Karnak, qui est juste avec son titre de Mer et Temet, hein, donc directeur des choses scellées, Kabat, qu'on retrouve. Et sur cette statue, il n'est pas du tout appelé Mer Peredj. Ni du roi, ni du dieu. Alors, sur les précédentes, il était clairement indiqué comme directeur du trésor du domaine d'Amon. Et d'un seul coup, là, il n'est pas, il ne l'est pas. Je ne veux pas dire qu'il ne l'est plus, parce que la chronologie des statues n'est pas connue. Donc, on peut pas imaginer, enfin, on pourrait imaginer que ce soit une carrière, mais en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et là, on a une série de titres qui le mettent en rapport avec le palais, donc directeur des choses scellées. Donc là, on est dans une fonction de directeur du trésor. Et on retrouve grand de course dans le palais. Donc là, ça va bien s'appliquer au roi, a priori. Langue du roi dans Karnak. Et là, c'est l'image de... tout à l'heure, il était les yeux du roi, il a sa langue. Bon, c'est deux fonctions différentes. Et dans la titulature qu'on a en bas, eh bien, c'est aussi à peu près la même chose avec le titre de Iri Redui Neptaoui, hein, celui qui suit le roi. Mais derrière, il est les yeux du roi dans Karnak. Alors, il le suit où, d'ailleurs? Est-ce que il s'agit d'Arsésis qui réside très vraisemblablement à Thèbes, ou est-ce que c'est Osorkon II, le roi lointain de Bubastis? C'est très difficile à dire. Donc oui, ça c'est la généalogie de ces personnages. Vous voyez qu'il va se poursuivre jusqu'à peu près au règne de Taharqa, en tout cas pour les titres de quatrième prophète d'Amon, hein, ils sont bien testés jusqu'au règne de Taharqa. Alors, sur une autre statue de Nartefmout, on a encore cette superposition des titres, avec cette fois-ci le titre de deuxième prophète d'Amon, hein, qui surgit. Là, on n'a pas ce titre, on a le titre on n'a pas le titre de directeur du trésor, hein, il est simplement évoqué à travers le titre de Hekabat, qui résume Mer et Temet Hekabat, qui est l'équivalent de Mer Peredj, mais du roi a priori, alors que tous les autres titres sont en rapport avec Amon. Alors sur ce fragment de décor de tombe qui a été trouvé par Quibel et qui a atterri à Philadelphie, eh bien, on a une titulature d'une de ses filles. On voit qu'il est quatrième prophète d'Amon et un peu plus loin, directeur du trésor du maître des deux terres. Donc, la suspicion qu'on pouvait avoir en regardant le titre de Mer et Temet et Kabat, elle se vérifie. Il était bien directeur du trésor du roi, en plus d'être directeur du trésor d'Amon. Et là, Neptaoui, a priori, ça ne peut pas s'appliquer à Amon, a priori. Alors, pour son fils Arsésis, on retrouve la même chose sur des documents de même nature. Hein. Sa statue 42210, avec des titres reliques d'abord, un passage manifestement corrompu, là j'emprunte le texte à Jansen Lincoln, hiéroglyphique, mais effectivement, c'est bien ça qui est marqué, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que ça ne veut rien dire. Donc, il y avait sans doute un autre titre à cet endroit-là. Et derrière, on a le titre de directeur du maître du trésor, du maître des deux terres. Donc, Arsésis était aussi porteur de ces titres, et on le retrouve sur le montant de porte à côté, avec ce titre de directeur du trésor de Pharaon, cette fois-ci, qui confirme cette appartenance du personnage à l'administration royale. Alors, pour Djetronsou Iweforsé, hein, le troisième de la famille, eh bien, on a des textes qui sont beaucoup plus longs, notamment sur sa statue 42211, qui est très intéressante, évidemment. D'abord, la mise en page a été étudiée par Fischer et vraiment tout à fait travaillée et originale. Et on a, sur la partie avant, ce symbole du bat, à nouveau, hein, qui est une des fonctions du personnage, comme on l'avait d'ailleurs sur la statue de son père et de son grand-père. Cette statue se prolonge par ligne de texte et répartie en fait en deux séries de lignes, sa titulature qui est fort développée. Alors, sur un côté, on a une accumulation de titres qui sont tous des titres, entre guillemets, civils, en rapport avec le palais et l'administration du roi. Alors, bizarrement, on ne voit pas ce titre de directeur du trésor du maître des deux terres, qui est pourtant, je dirais, sa fonction principale, je dirais peut-être de la vie quotidienne, en fait, c'est ce qu'il faisait vraiment. Hein. À côté de ça, on a toute une série de titres reliques, d'épithètes liées à son activité dans le palais. Le seul titre qui pourrait avoir un rapport, qui pourrait évoquer ses travaux justement dans le trésor royal, c'est ce titre qu'à la fin, qui est un titre d'ailleurs relativement unique, hein, de directeur des travaux du roi en or et en argent. Est-ce que c'est là une évocation de ce titre de directeur du trésor du maître des deux terres? C'est une possibilité. Mais de toute façon, si on compare, effectivement, on s'aperçoit qu'on a une série de titres qui, eux, évoquent immanquablement son activité à la cour et dans le palais royal. Donc, avec ce titre de celui qui connaît hein, les secrets du palais, dans le palais, celui qui voit l'intimité, la partie la plus sacrée, la plus intime hein, du palais, et le directeur des chambellans, le gardien de couronne qui accède au palais. Là aussi, on voit que c'est quelqu'un qui était un personnage extrêmement proche du roi, qui, donc gardien des couronnes, bon, bah, a priori, il a son rôle dans la maison du matin, qu'on a déjà évoqué, pour l'ornement du roi, enfin le couronnement, je dirais, quotidien du roi. Et donc, cette fonction palatiale avec le directeur des chambellans, là, on voit qu'on est vraiment dans une fonction qui est au palais. Et là, le terme de palais, il se pose la question encore de ce que ça veut dire. Alors, de l'autre côté, on a une série de titres qui, eux, évoquent les fonctions sacerdotales, à commencer par son titre principal, qui est quatrième prophète d'Amon, sur cette statue qu'il a fait faire. Donc, quatrième prophète d'Amon, la série de titres en rapport avec Mout, mais ces éléments-là sont vraiment bien répartis, et si on fait la traduction et qu'on met des couleurs, ben on s'aperçoit que, en fait, toute une partie, c'est vraiment que les titres civils. Tout l'autre, c'est que les titres religieux. Le seul titre, entre guillemets, civil, c'est chef du bat, qui, lui, en fait, est dans la colonne centrale. Hein. Alors, ce titre de chef du bat, faudrait qu'on s'y réintéresse à un moment donné. C'est Gretzlov qui avait fait un article il y a fort longtemps. Hein. C'est quelque chose à réétudier, effectivement. Je crois que c'est un titre qui est à la jonction des deux fonctions, en fait, l'aspect sacralisé, sans doute, des activités du trésor. Hein, mais ce serait vraiment à vérifier. Mais on voit qu'ici, chef du bat, c'est une fois de plus l'abréviation de Merretemet et Kabat. Là-dessus, c'est encore son titre principal. C'est pour ça qu'il n'apparaît pas, peut-être, dans la première partie de la titulature. Alors, si on regarde une autre statue du même personnage, on retrouve ce titre de Merretemet et Kabat en entier, pour une fois. Ce qui veut bien dire qu'il le portait réellement et qu'on a des stratégies de phraséologie qui l'effacent de temps en temps au profit du simple Kabat pour des raisons de décorum, si on veut. Alors, c'est sur la statue de son père qu'il a dédié, la statue 42210, dans la dédicace, là, on voit son titre, on découvre son titre de directeur du trésor, un Merperet Gennettaoui, directeur du trésor du maître des deux terres. Donc, une fois de plus, là, on a un effacement de ce titre qui est de temps en temps, et qui laisse penser que le personnage a pu n'exercer que quelquefois que dans le domaine d'Amon. Sur l'autre dédicace, en symétrique, le titre correspondant, ce qui a l'air d'être l'équivalent, hein, c'est ce titre de quatrième prophète d'Amon. Alors, sur un peu plus tard, à la fin de l'époque libyenne, en tout cas au début de l'époque éthiopienne, Kouchite, hein, on a ce cercueil, toujours inédit malheureusement, c'est pas moi qui est censé le publier, hein, de Nespakashutibé, qui était vizir, et qui était aussi scribe du trésor du domaine d'Amon. Hein, ça apparaît dans sa titulature, il est scribe du trésor du domaine d'Amon, je ne sais pas si vous avez entouré, voilà, en rouge, et il est prophète d'Amon en rouge aussi. Mais parallèlement, il est directeur du trésor de Pharaon. Alors, on pourrait penser qu'effectivement, je l'avais d'ailleurs écrit, que ces fonctionnaires sont recrutés dans le domaine d'amont, parce qu'il y a un savoir-faire de l'administration, on va dire, et que le pouvoir royal les aspire hein, à d'autres fonctions. Mais les choses sont quand même pas si claires, parce que sur d'autres documents, on a vraiment un flou, hein, un flou artistique. Hormat, qui est à la fin de la 22e dynastie, au début de la 25e dynastie aussi, est sur... trois documents directeur du trésor de Pharaon, et bien sur d'autres documents, il est Meret et Metekabat. Jusqu'ici, ça va, on reste dans le domaine civil, mais d'un seul coup, on voit arriver sur deux autres documents le titre de directeur, avec des graphies parfois bizarres, mais bon, le titre de directeur du trésor du domaine d'Amon. Est-ce que ce domaine d'Amon en Haute-Égypte ne se confond pas avec la Haute-Égypte, avec le Thébanische Gotteshtat de Carl Jansen Hinkeln? Et là, on était au niveau des directeurs du trésor. Si on va plus bas, au niveau des scribes et des idénaux, on retrouve la même chose qu'on l'avait vu avec la 21e. Eh bien, jusqu'à la 25e, c'est encore le cas avec la famille des Penmaat. On a un personnage qui est appelé Idénou en Peredj en Perimen, mais il est aussi Sech Peredj en Neptawi en même temps, hein, sur la même statue. Et son ancêtre, qui s'appelle aussi Penmaat, est lui directeur du trésor du domaine d'Amon. Mais le Iyad, fils de Penmaat, c'est-à-dire le fils du... le père, excusez-moi, du premier Penmaat, il y a de quoi s'y tromper, est Idénou en Peredj et Sech en Peredj. Mais là, on ne précise pas. Est-ce que c'est Sech en Peredj en Perimen ou est-ce que c'est en Neptawi? Ouais. Donc là, on sent bien qu'on a voulu entretenir ce flou, notamment à cette 25e dynastie où la Haute-Égypte est un peu autonome sous le contrôle des divinités adoratrices d'Amon et de Montouhemat. Et sur les documents des descendants ou des parents de cette famille, on retrouve cette ambiguïté hein, avec Sech Peredj et Idénou en Peredj en Perimen. Alors, sur la stèle triomphale de Pianki, hein, pour arriver en fin de période, eh bien, on a aussi cette ambiguïté. Lorsque Pianki, après avoir vaincu ses ennemis, récupère le tribut, hein, si j'ose dire, eh bien, on a ce passage-là. Hein, alors ces biens furent enregistrés au trésor, ces greniers à l'offrande divine d'Amon. Donc d'un côté, on a les biens qui vont au trésor, mais on ne sait pas si c'est le trésor du roi. Hein, et de l'autre côté, parce qu'on ne précise pas que c'est le trésor d'Amon, hein, là, et de l'autre côté, on a ces greniers à l'offrande divine d'Amon. Donc les greniers vont à l'offrande divine, qui est en fait le grenier d'Amon, hein, et de l'autre côté, le trésor va au trésor. Mais pour un autre vaincu, ben, on a l'impression qu'on n'a pas exactement le même traitement, puisque là, on a « alors son trésor et ses greniers furent enregistrés à l'offrande divine d'Amon en Karnak ». Donc, est-ce qu'il y a eu deux traitements différents des deux ennemis, en fonction de ce qu'on a pu trouver dans le trésor, ou est-ce que, en fait, c'est deux formulations un peu différentes pour dire la même chose, et le premier trésor, c'est là aussi le trésor d'Amon. Alors, cette confusion hein, entre le trésor d'Amon et le trésor du dieu, effectivement, elle naît de du statut particulier de la Haute-Égypte hein, pendant cette troisième période intermédiaire d'État lié à Amon, gouverné par les grands prêtres d'Amon. Et on voit bien sur les statuts de l'époque, que ce soit les statuts justement des fonctionnaires ou les statuts de prêtres, je pense qu'on en parlera peut-être, de l'ambiguïté de termes qui désignent le palais dans ces épithètes biographiques ou holiques. Hein, on a les appellations classiques du palais, Haret, Setepsa, Pernezout. Alors Pernezout, il n'y a pas de doute hein, sur le fait qu'il s'agit du palais du roi. Mais pour Setepsa et Haret, on a des textes où clairement ça fait allusion au palais divin d'Amon dans Karnak. Donc les prêtres et les fonctionnaires qui sont les mêmes à ce moment-là pour le coup hein, ont joué de cette ambiguïté justement assez longtemps. Alors pour conclure après avoir balayé hein, cette documentation de l'administration du trésor, bon j'ai anticipé, on doit constater hein, cette ambiguïté dans les titulatures qui est vraiment caractéristique de la troisième période intermédiaire, même si on peut on la distingue très très bien avec l'administration du trésor. On peut la soupçonner pour l'administration des greniers, mais on est beaucoup moins bien documenté pour cette administration des greniers. Ça souligne la difficulté des analyses qui sont liées à des titres. Et on reconstitue un organigramme, comme ce matin Sépide Kaïri l'a fait. On a un organigramme et on n'a pas de document de la pratique derrière qui viennent confirmer et nous expliquer comment ça se passait sur le terrain, qui venait et qui était le représentant d'Amon ou le représentant du roi est-ce que ça avait vraiment une importance à un moment donné, enfin, il y a un moment donné où quand même les denrées et les métaux précieux devaient aller vers un endroit ou vers un autre. Donc il fallait quand même décider à un moment donné. Et ça, on aimerait bien le savoir. Et ça, c'est toujours un peu problématique. L'autre conclusion, hein, c'est que le système semble s'arrêter avec l'époque Saïd. Hein. Là, on a une réorganisation administrative qui va, faire disparaître ce double langage, même si on a des fonctionnaires qui restent des prêtres dans leur secteur, dans leur localité. On a, au niveau de l'administration royale et l'administration des temples, on a un double langage qui va s'évanouir un peu. Pas tellement parce qu'il correspond plus à la réalité, mais parce que cette réalité est sans doute désormais acquise, en fait, hein, et avec les administrations de temples qui sont quand même placées sous l'autorité royale de manière un peu plus claire. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.